Merci. Merci, Walter.
Waouh, ça fait plaisir d'être à Genève aujourd'hui. Moi, j'ai quitté Facebook il y a 5 jours. Je suis libre. Je vole comme un oiseau loin de sa cage. Et Messenger avec, tout est parti. C'est formidable. Mais c'est vrai que c'est un moyen de communication. Tant que c'est un outil et pas une prison. Il y en a qui ont commencé avec un outil et qui ont fini dans la prison. Et qui ont du mal à s'en échapper. Ça fait plaisir d'être particulièrement à Genève. À Genève. On est bien en Suisse. Hein. Ce qui est bien ici, il n'y a pas de grève. Vous arrivez à résoudre les problèmes en paix. Nous, on casse tout et les problèmes s'ajoutent en fait à ceux qui existaient déjà. Je dis qu'en France, on a 5 saisons. On a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et les grèves. Tous les ans. C'est la tradition française. Il nous faudrait une révolution spirituelle en France. Parce qu'il y a un mécontentement constant qui gangrène la France. Est-ce que c'est peut-être la réforme qui a changé la Suisse plus que la France? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez eu le privilège d'accueillir il y a bien longtemps Jean Calvin, qui a marqué le monde en fait. Il n'était pas suisse, il était français, il était picard. Et quand j'étais jeune pasteur, il y a 25 ans, en Picardie, on allait souvent du côté de Noyon, où est né Jean Calvin. Et quand j'y étais, il y a 25 ans, il n'y avait pas d'église évangélique. Vous vous rendez compte, dans la ville où est né Jean Calvin, aucune église évangélique. Et puis j'apprends depuis peu qu'il y a un pasteur d'origine africaine qui est arrivé en Picardie et qui a ouvert enfin une église. Je pense que Jean Calvin, il serait content ce matin. En tout cas, merci à votre pasteur Walter et son épouse Jenny pour cette invitation. Ce matin, j'ai eu un très bon petit déjeuner. Les tresses de Jenny. Hein, vous voyez ? Elles sont connues dans toute la Suisse. Jenny, justement, qui me donnait ses origines, qui vont très loin, jusqu'en Russie, c'est ça, m'a demandé ce matin, en mangeant la tresse et une tisane au miel, elle m'a demandé quelles étaient mes origines. Alors, elles sont britanniques. Effectivement, mon père est écossais. Et il y a près de 55 ans, il a quitté Glasgow pour venir servir comme missionnaire en Auvergne. Vous vous rendez compte ? Vous avez suivi, là ? Un Écossais qui vient en Auvergne au début des années 60. Ma mère a fait pareil, elle est de Birmingham en Angleterre et Dieu a mis la France sur son cœur. Elle pensait à l'Afrique, elle était infirmière, sage-femme, elle pensait à l'Inde et puis Dieu lui a donné l'Auvergne aussi. Parce qu'on est Auvergnat et ensuite on est Français. Vous le saviez ça. Et c'est en Auvergne que mon frère et moi on est nés. Et quand on était petits, nos parents nous ont raconté justement un événement formidable. Mon père et ma mère se connaissaient comme jeunes missionnaires célibataires dans le centre de la France. Et puis, ils savaient qu'ils allaient se marier. Et avant qu'ils se marient, quand ils se retrouvaient, ils priaient et ils disaient « Seigneur, si un jour tu nous donnes des enfants, nous te prions que le plus tôt possible, nos enfants se décident pour Jésus. » C'est bien de prier comme ça pour vos enfants ou vos petits-enfants. Et puis, ils se sont mariés, ils ont ouvert l'église de Ghana, près de Vichy, et ils ont continué à prier pour les 2 garçons que Dieu leur a donnés. Et puis un soir, c'était en 1977, je parle bien le Suisse, hein. J'ai tout révisé avant. Hein. En 77, et oui, ça étonne certains là-haut, en 77, dans la petite maison au-dessus de l'église évangélique de Ghana, qui existe encore aujourd'hui. J'avais 4 ans, mon frère avait 5 ans. Le même soir, alors pour ceux qui comptent, j'ai 46 ans. Hein, y en a qui font ça. Il ne faut pas faire des mathématiques le dimanche matin. Et mes parents priaient avec mon frère, comme on le faisait tous les soirs, mais priaient près de son lit. Puis j'entends que papa et maman prient avec Marc, mais pas comme on priait tous les soirs. Et Marc, mon grand frère, il ouvre son cœur et il dit « Seigneur Jésus, je t'invite, rentre dans ma vie. » Moi, je suis dans mon lit, à côté. J'ai dit « Tiens, Marc, il n'a jamais prié comme ça. » Et au moment où papa et maman allaient éteindre la lumière et nous souhaiter à tous les deux une bonne nuit, Ils allaient fermer la porte de la chambre et j'ai appelé de mon lit et j'ai dit « Et moi ?» Ce « Et moi ?» a changé ma vie parce que mes parents sont venus de nouveau près du lit et on a prié, mais pas comme on priait tous les soirs, mais une prière qui a changé ma vie. Je m'en souviens pas bien, c'est très vague, mais Jésus s'en souvient. Et ça, c'est l'essentiel. Personne n'est trop jeune pour donner sa vie à Jésus. Même à 4 ans, ça vous dit qu'on a en fait compliqué l'évangile. Parce qu'il y a des gens même à 40 ans qui ne comprennent rien. Mais à 4 ans, j'ai compris que Jésus m'aimait et qu'il voulait vivre avec moi tous les jours. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus. La semaine dernière, j'étais dans le sud de l'Angleterre, dans le Devon, près de la mer. Et puis il y a une église, une petite église baptiste. C'est là qu'a été élevée ma belle-sœur Rachel et sa sœur Sarah. Avant que les parents décident de venir en France servir comme missionnaires aussi. Mais dans cette petite église baptiste de Ilfecombe, tout près de la mer, au sud de l'Angleterre, ma belle-sœur, quand elle avait 3 ans, sur les genoux de sa grand-mère, elle a dit « Jésus, je t'accueille dans mon cœur ». Personne n'est trop jeune, ni trop vieux, pour se décider pour Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard, ni trop tôt, pour connaître l'amour de Jésus. On l'a dit tout à l'heure, laissez venir à moi les petits, même pas les enfants, les petits. Les enfants peuvent venir, mais les petits-enfants, ne les empêchez pas de découvrir le cœur de Jésus. Et c'est en 1998, il n'y aura plus de chiffres après, 98, j'étais pasteur justement en Picardie à Amiens, et puis Dieu m'a mis un fardeau sur le cœur pour un petit pays là-bas en Asie du Sud-Est. Je ne connaissais pas l'Asie. Et ce fardeau ne me quittait pas. C'est bien d'avoir des fardeaux. Quand j'étais petit, on chantait souvent, vous savez, les cantiques qui disent « Dépose tous tes fardeaux au pied de la croix ». Ne basez pas vos théologies sur les chants, mais sur la Bible. Parce qu'il y a des fardeaux qui viennent de Dieu. Et les gens qui ont changé le monde, vous avez peut-être lu leur biographie, en fait, ce sont des gens qui avaient un fardeau. Et ce fardeau les a poussés dans leur destinée et dans leur appel. Ne déposez pas tous vos fardeaux à la croix. Il y a des fardeaux que Dieu voudrait vous laisser. Mon fardeau est léger, dit Jésus. Mon joug est facile. Et Dieu a mis un fardeau sur mon cœur pour les 20 000 enfants dans les rues de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Et je suis parti, j'ai dit au revoir à Amiens et j'ai acheté un billet aller simple. Paris, Singapour, Phnom Penh. Et j'ai atterri dans la capitale du Cambodge le 24 septembre 99. Et puis c'est de là qu'une aventure formidable s'est dessinée. Je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais rien du Cambodge. J'avais vu très peu de Cambodgiens en fait, en France. Mais j'ai passé 19 ans, presque 20 ans dans un pays formidable qui a beaucoup souffert par le régime des Khmer Rouges dans les années 70 avec Pol Pot comme dictateur. C'est intéressant, Pol Pot voulait rayer de la carte l'église de Jésus-Christ. Il n'a pas réussi. D'ailleurs, les dictateurs, ils n'ont jamais le dernier mot. C'est toujours Jésus qui a le dernier mot. Parce que Jésus a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et Pol Pot est décédé. Le régime s'est effondré. Il n'y avait aucune église à la fin des Khmers Rouges. Aucune église. En 79, au Cambodge, à la fin des Khmers Rouges, du pire génocide peut-être de l'histoire de l'humanité, il n'y avait plus d'église. Il n'y avait que 3 pasteurs en vie. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, il y aurait, paraît-il, 8000 églises évangéliques au Cambodge aujourd'hui. Amen. C'est bien, ça se dit pareil aussi en Suisse. 8000. Il y a quelques mois, l'évangéliste Franklin Graham, le fils de Billy Graham, qui est un grand évangéliste aussi, comme son père l'était, et il était juste avant Noël à Phnom Penh, au Cambodge. Et en plein air, 20 000 personnes ont pu entendre le message de l'Évangile. 20 000. C'est un pays ouvert, à la différence avec le Laos à côté qui est fermé, où l'Église souffre terriblement. Et puis le Vietnam aussi, où les pasteurs sont enfermés pour leur foi. Mais au Cambodge, c'est une porte qui est ouverte. J'ai eu un grand souci de santé l'année dernière. Donc 2019, ça n'a pas été une année facile. Et puis je pensais que c'était terminé le Cambodge. Mais mon cœur y vibre à nouveau pour ce pays, parce que les portes sont toujours ouvertes. Et c'était intéressant, j'étais hier, avant-hier, à Vevey, c'est en Suisse. C'est pas en Auvergne. Hein. Et j'étais à Vevey et je cherchais l'adresse de ses amis avec qui j'allais partager un repas. Et puis, le GPS ne fonctionne pas. Le mien en tout cas, je ne sais pas, peut-être qu'il a été fabriqué au Cambodge, il ne marche pas bien. Et puis j'arrive et puis je cherche le nom de la rue pour passer midi avec ses amis qui venaient aussi au Cambodge de temps en temps nous rendre visite. Et je ne trouve pas, mais je vois un couple retraité sur le trottoir à droite et j'ouvre la fenêtre et puis je leur demande si c'est la bonne rue. Et ils ne savent pas. Alors je dis, est-ce que je pourrais peut-être emprunter votre téléphone pour appeler mes amis ? Et puis je regarde la dame, elle est asiatique. Et puis quand elle parle, je dis, ah, je sens la chaleur du Cambodge dans sa voix. Alors je suis passé du français au Khmer, la langue du Cambodge. Et j'ai eu peur que son cœur s'arrête de battre. Parce que je crois qu'elle n'a jamais vu à Vevey un blanc parler Khmer. Je pense qu'elle est en ce moment en réanimation. Mais tout ira bien. J'ai ramené avec moi, et vous verrez sur la table, en sortant sur la gauche, vous verrez, j'ai ramené, c'est mon deuxième bébé, qui est né le 14 novembre. Il est sorti de presse à Paris, aux éditions Première Partie. J'ai écrit un premier livre il y a 6 ans, ça s'appelle « Quitter la plage ». Et puis le deuxième, c'est « C'est toujours possible ». Et ce livre que j'ai écrit, j'habitais à Kep. Kep, c'est une petite ville au sud du Cambodge. C'est un petit port de pêche. On voit le Vietnam de là. Puis j'habitais dans une petite maison en bois. Il y avait la jungle avec les singes derrière. Puis la mer de Chine en face, c'était formidable. Et puis je revenais souvent dans ma petite maison en bois au bord de la mer. Et puis j'ai commencé à écrire, en fait, mettre sur papier des messages, des prédications que j'ai données ces 4-5 dernières années. Et j'ai voulu faire profiter ceux qui n'étaient pas là pendant les réunions de découvrir les messages dans un format écrit. Alors, c'est 5 chapitres, 5 prédications, et le seul but de ce livre, c'est de vous encourager, de vous inspirer à rentrer dans votre destinée, dans votre vocation. Ne courez pas dans le couloir de quelqu'un d'autre. Courez dans votre couloir, dans votre appel. Et ce livre est fait de plein de témoignages du Cambodge et d'ailleurs, d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont changé le monde à leur façon, pour nous inspirer, pas pour nous enfoncer. Moi, je lisais des livres quand j'étais petit, je me sentais enfoncé à la fin. C'était des livres très condamnés, condamnables. Mais ce livre est là pour nous élever, pour nous encourager à courir aussi dans notre destinée. Ne passez pas à côté de la seule vie que Dieu vous a donnée. Il n'y a qu'une vie. Quand je vois les gens perdre leur temps, je ne sais pas trop en Suisse, je ne viens pas très souvent, mais je vois en France et même au Cambodge, le temps que les gens passent par exemple sur un petit écran, comme si l'écran de télé ça ne suffisait pas. Moi je n'ai jamais eu de télé, mais je sais que la télé a fait des petits, qu'on transporte partout. Et j'ai dit, mais le temps que les gens passent sur les petits écrans, je me dis, mais en fait, ils ont peut-être appris qu'ils allaient vivre 200 ans. Ou qu'ils avaient une deuxième vie quand celle-ci sera terminée. Parce qu'ils perdent du temps comme s'ils avaient beaucoup de temps. En fait, on n'a pas beaucoup de temps. Rachetez le temps, dit Jésus. Parce que les jours sont mauvais. Et rentrez dans votre destinée, dans votre appel. Ne passez pas à côté de la seule vie que Dieu vous a donnée. Alors, c'est toujours possible et disponible ici, à la sortie. Je serais heureux de mettre un petit mot, si vous voulez, pour le même prix. C'est 10 francs. Ça vous va, 10 francs ? Vous n'avez pas 10 francs ? C'est pas grave, 11 francs, ça va aussi. Il n'y a pas de chichi, hein, si vous sentez que vous n'avez pas les moyens. Vous avez vos Bibles avec vous ? Je dis ça parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne viennent plus avec la Bible à l'église. Alors j'espère que vous l'avez, ou que le voisin, en tout cas, va vous prêter la sienne. Bien, Seigneur, on te remercie pour ce culte de célébration. Et on célèbre la vie de Jésus. Merci pour ce que tu fais dans le monde entier. Même dans les pays qui ont souffert, c'est toi qui as le dernier mot. Même les pays fermés, comme la Corée du Nord, comme le Yémen, comme le Laos. Seigneur, plus de 70 pays à travers la planète n'ont pas la liberté que nous avons ici en Suisse de se rassembler librement et de louer Jésus. On veut penser, Seigneur, à nos frères et sœurs, par millions, en particulier en Inde, où les taux se resserrent de plus en plus. Je te prie, Jésus, que tes enfants, dans ce grand pays, peut-être maintenant le pays le plus peuplé de la planète, soient soutenus dans leur foi. Que tu les encourages, que tu leur fasses du bien, et qu'on ne prenne jamais, comme si c'est normal, la liberté que nous avons en France, en Suisse, en Europe, de nous retrouver autour de la Bible, de distribuer ta parole. Et Seigneur, j'apprends même qu'à Genève, la liberté, elle se resserre, elle se resserre. Je te prie qu'on puisse profiter du temps, de l'ouverture qui existe encore ici pour annoncer l'Évangile. Amen. On m'a dit qu'il y a 40 nationalités dans cette église. C'est formidable ça, hein ? Il n'y a pas que les Nations Unies là-bas, elles sont ici aussi. Amen. Je vais vous décrire un petit peu la scène avant qu'on plonge dans le passage biblique. Imaginez une carte géographique. Là-bas, vous avez au loin, peut-être derrière les montagnes, les Madianites. Un peuple extrêmement cruel et vicieux, nous dit la Bible. Et puis ici, vous avez le peuple d'Israël. Deux ennemis. Les Madianites, ils sont très fins. Ils sont... Souvent, les gens qui sont cruels sont aussi très intelligents, malheureusement. Les Khmers rouges avaient des formes, par exemple, de torture, il y a 40 ans au Cambodge, qui étaient plus affinées que les nazis en Allemagne. C'est comme si les gens cruels sont intelligents aussi, mais ils mettent leur intelligence au mauvais endroit. Et les Madianites sont très malins, ils attendent que les Israélites plantent leurs semences. Et au moment de la moisson, de la récolte, la Bible dit qu'ils arrivent, les Madianites, en masse. Même la Bible, elle ne donne pas de nombre tellement il y en a. À d'autres chameaux, ils arrivent et ils envahissent le pays d'Israël et ils prennent tout sur leur passage. Ils avaient peut-être comme slogan « Tout doit disparaître ». Tout partait. La Bible dit ils ne laissaient rien en Israël, ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Tout partait. Et face à cette invasion barbare, le peuple d'Israël a des, comme des maisons secondaires. Au cas où ça se passe mal, on ira se réfugier quelque part. Et ils vont se réfugier, la Bible dit, dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Ils ont peur des Madianites. Ils sont pourtant le peuple de Dieu, mais ils ont peur de l'ennemi. Quelques Israélites savent qu'il vaut mieux mettre du blé de côté, de préserver, protéger du blé, parce que au moment de la moisson, les Madianites risquent d'arriver et de tout prendre sur leur passage. L'un de ceux qui pense en avance, sachant que les Madianites pourraient arriver d'un moment à l'autre, c'est Gédéon. Gédéon, je l'imagine, c'est pas écrit, mais je l'imagine, il récupère le blé, il regarde au loin, et puis il aperçoit peut-être de la poussière sur les flancs des montagnes, et il se dit, ça y est, les chameaux arrivent envahir le pays. Et il récupère tout le blé qu'il peut, peut-être avec sa femme, Gédéon, peut-être qu'elle s'appelle comme ça, les enfants, et ils vont trouver un endroit pour se protéger, et le seul endroit qu'ils trouvent, c'est un pressoir à vin, un trou pour presser les grappes et faire du vin. Et je l'imagine dans son trou, Gédéon qui se dit « Et si les Madianites me trouvent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qui va se passer s'ils nous trouvent dans notre pressoir à vin ? Ces cruels, barbares, Madianites, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Ils vont peut-être prendre ma femme comme esclave ? Combien de temps va-t-on pouvoir rester dans ce trou ?» Vous savez, en parcourant les églises au Cambodge, de long en large, jusqu'à la frontière thaïlandaise ou laotienne, en visitant toutes ces églises au fil des années et d'autres églises ailleurs dans le monde, eh bien, je me rends compte qu'il y a un fil rouge. Malheureusement, il y a un fil rouge. Je rencontre des hommes et des femmes, des gens bien, comme Gédéon, des gens bien, qui aiment Dieu, comme à l'église évangélique de Réveil à Genève, en Suisse, des gens qui aiment Dieu, mais qui sont bloqués dans un pressoir à vin. Bloqués, paralysés, enfermés dans un pressoir à vin, bloqués dans leur passé, certains ont peur de l'avenir, Certains s'accrochent au reste de blé qui leur reste, la bénédiction va disparaître. Et ils sont là, bloqués dans un pressoir à vin. Certains, ils y sont depuis des années. Et ils viennent quand même à l'église à 9h30 tous les dimanches. Bloqués. Et c'est bloqué dans son pressoir à vin que Dieu vient à la rencontre de Gédéon. C'est souvent quand on est bloqué que Jésus apparaît. Et c'est dans le livre des Juges, au chapitre 6, que l'ange de l'Éternel vient à la rencontre de cet homme de Dieu. Juges, chapitre 6, et le verset 11. Verset 11 du chapitre 6 du livre des Juges. Regardez ce qu'il est dit. Ah, il y a un écran. Pas bien. Heureusement qu'on en a quand même. Même moi, je peux le lire d'ici. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. La suite. L'ange de l'Éternel, verset 12, lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Tiens, il est dans un trou, il a la trouille, on dit ça aussi en Suisse, il a la trouille, il a peur des Madianites qui vont arriver, et l'ange de l'Éternel vient le voir et lui dit « Vaillant héros !» Moi, je serais avec l'ange, j'aurais dit « C'est pas la bonne adresse. » Parce que s'il y a un vaillant héros, il n'est pas ici dans un trou. Et Dieu vient et lui dit « Vaillant héros !» Il ne dit même pas héros, il dit « Vaillant héros » pour être sûr qu'ils comprennent. Il serait peut-être temps de se voir comment Dieu nous voit. Ça vous arrive de vous enfoncer? De dire « Moi, non, je ne pourrai jamais servir Dieu. Moi, non, je ne pourrai jamais impacter ma société. » Ma génération. Moi, je pourrais jamais partir au loin, être missionnaire. Moi, je. Et puis, on s'enfonce alors que Dieu nous dit, ce matin à 10h47, dans cette église, voici ce qu'il te dit. Vaillant héros, je suis avec toi. Vaillante héroïne de la foi. Moi, je sais pas, mais il y aurait un ange qui vient. Moi, un ange m'a jamais parlé, en tout cas de ma connaissance. Mais un ange serait venu me dire, Timothée, vaillant héros, lève-toi. Je sors du trou. Je sors et je ne retourne plus, jamais. Lui, il répond au verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Pourquoi tout ceci, tous ces malheurs nous sont-ils arrivés ? Pourquoi ? Et puis il continue au verset 15. Regarde au verset 15. Déjà, il est dans un trou, mais il creuse encore. Il y a des gens qui trouvent des pelles, même dans des trous. Ils disent, tiens, on pourrait faire encore plus bas que le trou. Et au verset 15, il dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible. » S'il ne fait pas de la dépression, je ne sais pas ce que c'est. « Je suis le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Ah, il descend, il y a des étages en dessous même. Ah, je suis le plus faible. Ah, je m'en sortirai jamais. Ah, je n'ai pas eu une grande éducation, donc Dieu ne pourra pas se servir de moi. Ah, je souffre d'un handicap depuis des années. Comment pourrais-je faire quelque chose de bien pour Dieu? Ah, je suis né dans une famille disloquée. Ah, j'ai raté mes études. Ah, et on s'enfonce alors que Dieu nous dit, vaillant héros! C'est intéressant parce que l'Éternel, lui, se tourne à nouveau. Verset 14. Tiens, c'est dit l'Éternel. Tout à l'heure, c'était l'ange de l'Éternel. Maintenant, c'est l'Éternel. Vous avez vu ça? Je ne sais pas, je ne suis pas un théologien, mais peut-être que l'Éternel, il a dit à l'ange, écoute, tu n'arrives pas à le convaincre. Bouge un peu, je vais lui parler directement. Et l'Éternel lui dit, verset 14, « Va avec la force que tu as !» et délivre Israël de l'oppression de Madian, n'est-ce pas moi, l'Éternel qui t'envoie? Ça vous encourage pas, ça? l'Éternel qui t'envoie. Lui dit, pourquoi ? Et l'ange de l'Éternel ou l'Éternel lui dit, va. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps avec des points d'interrogation. Ils n'ont que des pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ça s'est passé comme ça pour moi ? Pourquoi ça a dérapé dans ma vie ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous les voyez arriver le dimanche matin, ils ont... Vous savez, les gens qui ont des dollars dans les yeux, eux, c'est des points d'interrogation. Voilà, pourquoi ? Je veux savoir pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Je veux, je ne ferai rien pour Dieu tant que je n'ai pas une réponse à cette question. Et ils restent bloqués dans un pressoir à vin toute leur vie. Vous savez, Dieu, je pense qu'il aurait pu s'asseoir avec Gédéon et dire, écoute, bon, je vois que tu es un jeune homme bien troublé. Tu as beaucoup de pourquoi, tu es travaillé dans ton cœur et je vois que tu ne feras rien. Tu ne pourras plus jamais combattre les Madianites tant que tu n'as pas la réponse à tes pourquoi. Alors tu t'assois, on va discuter tous les deux. Alors c'est quoi ta liste ? Oh, tu as une longue liste de pourquoi. 149 pourquoi. Ah ben dis donc, elle va être longue hein, la conversation. Vous savez, il y a un temps pour parler, pour recevoir de l'aide, de l'écoute. Mais on peut faire parfois que ça. Dieu, il n'a pas répondu à ses pourquoi. Il lui a dit, va ! Il serait peut-être temps d'échanger ton point d'interrogation par un point d'exclamation. Va ! Pourquoi ? Va ! On dirait qu'il joue au ping-pong. Va ! Pourquoi ? Va ! Il y a des gens qui jouent au ping-pong avec Jésus. Vous savez que c'est lui qui va gagner ? Alors il vaut peut-être mieux ce matin de dire, allez, je dépose ma petite raquette et ma petite balle blanche sur la table et je dis, Seigneur, je lâche tout, t'as gagné. Quand vous faites ça, vous êtes libéré. Il m'a fait du mal, je ne ferai rien tant que j'ai pas entendu de ses propres lèvres qu'il s'excusait. Eh bien, t'attends et tu joues. Tu joues. Je ne pourrai jamais le pardonner, jamais. Tu joues. Tu vois, la moisson t'appelle. Tu vois, il y a 200 millions d'enfants dans la rue aujourd'hui. 200 millions d'enfants dans les rues. C'est énorme, ça. Eh bien, tu joues au ping-pong. Non, je veux savoir pourquoi il a fait ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Et Dieu te dit, regarde, la moisson est grande. Les ouvriers sont tellement peu nombreux. Et toi, tu joues au ping-pong. Tu joues au ping-pong. Tu gaspilles la vie que Dieu t'a donnée avec des « pourquoi ?». Il serait peut-être temps de lâcher la raquette et de courir dans la moisson. Merci pour les 12 amen de l'auditoire. Pourquoi ? Vous savez, pendant 30 ans, moi aussi je me suis posé cette question, pourquoi ? Pendant 30 ans, de l'âge de 15 ans à 45 ans. C'est long, hein ? Je ne comprenais pas pourquoi mon frère... J'ai un frère, Marc. Comment se fait-il que lui n'a pas souffert ? Moi, j'ai souffert. Comment se fait-il que lui et moi, on a été élevés dans le même foyer, avec des parents formidables ? Pourquoi moi, j'ai souffert de ce que les médecins, j'ai découvert ça bien plus tard, je ne savais pas qu'il y avait un nom, à ce que les médecins appellent les troubles obsessionnels compulsifs ? On n'en parlait jamais dans nos églises. On n'en parle toujours pas dans nos églises. C'est pour ça, ce matin, j'en parle. Parce que 2 à 3% de la population du monde souffre des TOC. 2 à 3%. Et les 2 à 3%, il y en a aussi dans l'Église. Parce qu'on fait partie du monde. Et je me souviens, mon plus lointain souvenir, j'avais 15 ans, et je devais fermer la porte de notre appartement. Mes parents, mon frère étaient partis. Puis je vérifie la poignée. Et puis je sais qu'elle est fermée, mais je veux quand même vérifier. Et j'essaye, et j'essaye, et j'essaye. Et j'ai dit, Timothée, ça fait 20 fois que tu as essayé de voir si la porte est bien fermée. Et puis j'ai cassé la poignée. Et quand j'avais la poignée dans la main, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je pensais que c'était juste, allez hop, on en parlera avec papa quand il sera de retour ce soir à la maison, sans savoir que ça venait d'ouvrir un barrage. Et que pendant 30 ans, tous les jours, même en vacances, même avec des gens bien autour de vous, c'est les TOC vous suivent partout. Et aussitôt, les yeux ouverts le matin, vous savez qu'il y a une machine, comme un disque qui est rayé, qui vous fait souffrir constamment. Vous vous inquiétez pour des choses que le monde entier, ça ne les inquiète pas. Et vous savez que le monde a raison et que vous avez tort. Mais vous ne pouvez pas changer le disque qui est bloqué. Et les tocs, on n'en parle jamais. C'est marrant, quelqu'un me disait l'autre jour, quand on a un problème d'ici au pied, on en parle. Quand c'est un problème ici à là, on n'en parle jamais. Alors on va voir un médecin pour une jambe cassée, mais on n'irait jamais voir quelqu'un comme un psychologue pour dire « je suis cassé ici, il y a un disque qui est rayé ». Et pendant des années, j'ai essayé de savoir, je suis allé aux États-Unis voir des experts, je suis allé même en Suisse, j'étais dans plusieurs régions, j'ai dit « mais c'est quoi la solution ? Pourquoi ?» Toujours je disais « pourquoi ?» Et puis il y a un an et demi, j'étais à Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. J'avais une semaine de repos. J'ai dit, je vais écrire mon histoire. Je vais mettre sur papier toutes ces années de souffrance et de pourquoi, d'incompréhension. Et j'ai écrit en français, en anglais. J'ai pris mon temps. Puis après, j'ai envoyé tout ça sur ma liste d'adresses mail. Send. Vous avez le bouton send ? Tout est parti. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai peut-être perdu tous mes amis maintenant. Ça fait tout le contraire. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est quand vous mettez à la lumière ce qui vous travaille là, vous savez, ça perd de son pouvoir. Si vous mettez à la lumière ce qui vous a troublé toutes ces années, vous le mettez à la lumière, l'ennemi n'a plus de pouvoir. Parce que la lumière est toujours plus forte que les ténèbres. J'étais dans une conférence à Singapour, avec encore un pourquoi, le pourquoi dans ma tête. Et puis j'ai jamais oublié. Il y avait un monde fou dans cette conférence. Des orateurs, des têtes d'affiches. Vous savez les têtes d'affiches, comme Eddie Baker, des têtes d'affiches. J'ai oublié tout ce que les orateurs ont dit pendant les 3 jours de conférence. Mais j'étais assis, je suis arrivé en retard dans cette grande salle. Et puis, il y a le pasteur Ed Silvoso d'Argentine, le beau-frère de Luis Palau. Il prêchait. J'ai retenu qu'une phrase. Il a dit, pourquoi ? C'est le mot du diable. Je dis, tiens. Il dit, il faut arrêter de te dire pourquoi. Il faut passer du pourquoi au pour quoi. Ça fait toute la différence. Il y a un petit espace entre le pour et le quoi. Pour quoi ? Pour quelle raison ? Dans quel but ? Et j'ai dit, ça y est, je sais. Je ne sais pas pourquoi en un mot, mais je sais pourquoi en 2 mots maintenant. Et je vais pouvoir dire aux autres que le Dieu qui m'a soutenu toutes ces années, voilà le pourquoi en 2 mots, il est aussi ton Dieu à toi, dans ta vallée, dans tes combats. Pourquoi ? Dans quel but ? Pour encourager. Voilà, pour encourager ceux et celles qui souffrent, peut-être pas de TOC, peut-être de boulimie, d'anorexie, de dépression, de pensées suicidaires, tous ces sujets tabous, encore en 2020, on n'en parle pas dans nos églises, ou très peu. Alors on dit, oui, à la victoire. Moi, je suis né dans les Assemblées de Dieu, et je les aime beaucoup. J'étais là à La Rochelle la semaine dernière, dans une ADD. Je les aime beaucoup, mais on avait, un peu moins maintenant, mais on avait l'habitude de dire, saisis la victoire. Saisis, tu ne sais pas où aller. Saisis la victoire. Il faut conquérir la terre promise. Tu ne sais pas où aller, la terre promise. Puis c'était toujours positif, toujours... Alors si jamais tu avais quelque chose qui tournait pas rond dans ton cœur et tu souffrais, tu n'osais pas le dire, parce qu'il fallait que tout aille bien, alléluia, gloire à Dieu, amen. Il n'y avait pas de alléluia dans mon cœur. Je souffrais. Mets ton pourquoi dans le pressoir à vin ce matin. Ça c'est une parole pour quelqu'un. Il est temps pour toi de mettre ton pourquoi dans ton pressoir à vin. Regardez le verset 25, on a bientôt terminé. Verset 25 du chapitre 6. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. » Waouh ! J'étais pas très bon en français, mais là j'ai quand même... repérer 2 verbes. Démolir l'autel de Baal et puis abattre le poteau sacré. Vous savez, pour entrer pleinement dans votre appel, dans tout ce que Dieu a prévu pour vous, il faut détruire et abattre le poteau sacré. C'est bien beau de sortir du pressoir à vin, mais à un moment, il y a des choses qu'il faut régler. Ça, on n'aime pas trop dans nos églises. Hein? Tu ne vas pas me dire ce que je dois faire. Eh bien, je ne te dirai pas. Et on va tous souffrir. Parce qu'on a tous des poteaux sacrés qui sont là depuis des années. Ah, ça, c'est sacré. D'ailleurs, ça s'appelle sacré, le poteau. C'est sacré, il ne faut pas y toucher. Ça m'appartient, c'est comme ça. Oui, je sais que c'est un petit compromis, mais c'est mon poteau sacré. Oui, ça me prend beaucoup de temps. Oui, ça me détruit à petit feu. Je le sais, mais c'est mon poteau sacré. Mais c'est justement ce poteau sacré-là qui t'empêche de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Alors, détruis-le, ce poteau sacré. Moi, quand j'ai détruit, pour moi, c'était sacré. Ce qui est sacré chez moi n'est peut-être pas chez toi. Et pour moi, Facebook, ça prenait de mon temps. C'était pour moi une forme de voyeurisme. Tout le monde s'envoie les photos. On ne sait pas où ça va. Quand on sera mort, Facebook aura encore les photos. Alors j'ai dit, ben, ce poteau sacré, pour moi en tout cas, il s'en va. Waouh, qu'est-ce que je me sens bien. Il y a des poteaux. Des fois, il y en a plusieurs poteaux sacrés. C'est-à-dire, je vais le détruire, détruire. Parce que c'est en train de me piquer, de me voler ma destinée et ma paix. Détruis le poteau sacré. Et regardez ce qui se passe. Quand on fait justement ce que Dieu nous dit de faire, on n'a pas toujours des amis. Justement, Facebook, on n'a plus d'amis. Verset 28, regardez. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus, abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel, amen, nouvel autel, qui avait été construit. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient tuer Gédéon pour avoir fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Les ennemis, ce n'est plus les Madianites qui arrivent à dos de chameau. Les ennemis, ils sont à l'intérieur cette fois-ci. Parfois, c'est pire. Les gens qui sont proches, qui ne veulent pas qu'on rentre dans notre destinée. Mais il l'a fait, Gédéon, il a détruit son poteau sacré. Et au verset 34, il est dit, quand il a fait tout ça, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Waouh ! Jésus, il attend que de te revêtir de son Saint-Esprit. Mais viens, sors du trou, détruis le poteau sacré, fais face à l'opposition des tiens. Et t'as un manteau, son esprit, il vient te le poser sur tes épaules. Et alors, tu peux faire l'impossible avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. J'ai envie de vous offrir un livre gratuitement. Ça, super. Ça m'a encouragé. Ah ben, ah oui, c'est bien. Hein. Ouais, ça va un petit peu... Pas trop fort, hein. Pas trop fort le prochain. Je termine avec un témoignage et ensuite on va prier ensemble. Amen. Ça s'est passé il y a une bonne vingtaine d'années. Je me préparais à quitter la France pour aller au Cambodge. J'avais brûlé tous mes ponts. Il faut brûler ses ponts et détruire ses poteaux. Et j'ai brûlé mes ponts, j'ai dit au revoir à l'église de Amiens. Et j'avais mes deux valises. Et je suis parti visiter des églises en France, notamment en Angleterre, en Écosse, pour leur parler du Cambodge où j'allais servir le Seigneur. C'est pas facile de parler d'un pays où on n'a encore jamais mis les pieds. Mais j'allais d'église en église. Et puis l'une des toutes dernières églises que j'ai visitées, c'était en Alsace, dans la petite ville de Wittenheim. Déjà avec un nom comme ça. On sait qu'on est en Alsace. Et je suis arrivé dans cette église, mais elle est particulière, cette église. C'est l'église évangélique cambodgienne de Wittenheim. Et le pasteur Pat Kun, qui est devenu l'un de mes meilleurs amis, un homme de Dieu remarquable, qui a écrit un livre qui s'appelle « Rescapé malgré moi ». S'il y a un livre à lire en dehors du mien, c'est « Rescapé malgré moi », le témoignage de cet homme qui a découvert Jésus dans un camp de réfugiés en Thaïlande après les Khmers rouges. Et le pasteur Pat Kun m'invite à présenter mon projet au Cambodge. Alors j'ai dit, bien évidemment, de présenter à des Cambodgiens, ça va être formidable. Et j'arrive, c'est un dimanche après-midi, et j'ai dit, oh, wow, tous ces Cambodgiens. Je n'avais jamais vu autant de Cambodgiens au même endroit en même temps. C'était un peu... Oh. Et j'ai dit, dans quelques semaines, ça sera 14 millions de gens comme eux. Et je suis là dans cette église, et au moment où j'étais assis ici, et puis le pasteur Pat, il dit, on va laisser la place à notre futur missionnaire, Timothée, qui va dans notre pays d'origine. Il dit tout ça en khmer. Lokru, Tao, Bangrin, Prekompi, Naoproter, Boyeng, Naopi, Baikai, Kraoy. Je dis, ah oh, ouais, c'est intéressant cette langue. Et puis je viens, et au moment où je monte sur l'estrade, là sur le mur, en haut à droite, il y avait un verset, comme écrit sur un parchemin, comme un manuscrit. C'est écrit avec de l'encre noire, chine. Vous savez, très beau. Style un peu gothique, je pense. C'était écrit là. Et ce verset, au moment où je vais prendre la parole pour parler à ces 50 Cambodgiens dans cette salle, à ce moment-là, ce verset a comme confirmé mon appel pour travailler au Cambodge. Et puis j'ai donné mon message. Et puis, quelques temps plus tard, j'étais dans l'avion et j'allais cette fois-ci pour de bon au Cambodge. Et quand j'ai atterri à Phnom Penh, je me suis souvenu de ce verset sur le mur de l'église évangélique cambodgienne de Vittenheim à 11 000 kilomètres. Et je me suis souvenu de ce verset. Alors j'ai écrit au pasteur Pat Kun. Il n'y avait pas d'email à l'époque. Alors, j'ai écrit une lettre. Vous vous souvenez les lettres avec des timbres? Il y en a qui... Non, je ne vois pas. Et j'ai envoyé ce courrier au pasteur Pat Kun. Et j'ai dit... Tu sais, dans ton église, il y a ce verset qui est sur le mur. Qu'est-ce que ce verset m'a fait du bien? Et quelques semaines plus tard, on vient frapper à ma porte. Et puis, il y a deux chrétiens, deux frères de l'église évangélique de Vittenheim, des Cambodgiens, qui rendaient visite à leur famille au Cambodge. Ils font ça souvent, une fois par an. Et ils ont fait le petit saut chez moi, dans mon appartement à Phnom Penh. Et ils sont arrivés, je me rappelle, il pleuvait des cordes. C'est, l'histoire est dans le livre, justement. Donc, pour ceux qui dorment déjà, tout est là. Et quand ils sont arrivés dans la maison, ils m'ont dit, on a un cadeau pour toi, qu'on a ramené de l'église de Vittenheim. J'ai dit, ah bon ? Le pasteur Pat Kun nous a dit que tu avais beaucoup à cœur le verset qui était collé sur le mur de notre église. Alors, on te l'a ramené. Et puis, un des frères, il a ouvert son imperméable, il pleuvait. Et puis, il rentre dans le salon... Et puis il me l'a offert. Et ça fait 20 ans que ce verset est avec moi. Pas comme un porte-bonheur, mais comme un rappel de cette promesse que Dieu a dit à Gédéon. Et je l'ai ramené avec vous, pour vous, ce matin. Ce verset m'a souvent encouragé dans les moments de découragement au Cambodge, dans les moments où j'étais dans la vallée. Des moments où, quand ma maison a été inondée, il ne restait plus rien. Quand mon meilleur ami s'est suicidé, un pasteur. Dans les moments où on est tout au fond du trou. Quand les voleurs sont venus un dimanche après-midi, ils ont tout pris chez moi. Quand on est tout au fond du trou, on découvre la promesse de Dieu. Et au fond de ton trou, il y a une promesse. Regarde. Prends du recul dans le pressoir à vin, il y a une promesse qui est là. Et cette promesse... C'est celle qui a été donnée à Gédéon. Et voici le manuscrit. Il a pris quelques coups quand même, au fil des années. Il n'y a pas longtemps, dans ma maison à Kep, là-bas au sud du Cambodge, il y a une armée de fourmis rouges. Une armée. Ils se sont tous dit, on va aller conquérir le verset de Timothée. Et ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils ont souffert. Et j'ai remporté la victoire. Amen. Et voici le verset. « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et c'est avec ce verset que j'aimerais vous lancer dans votre moisson ou de vous encourager à courir encore dans la moisson. « Va avec la force que tu as, dit Jésus, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur pour cette promesse qui a traversé les siècles et qui arrive jusqu'à nous en ce 26 janvier 2020, ici dans cette église, « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi, dit l'Éternel, qui t'envoie ?» Seigneur, je te demande que tous nos pourquoi on puisse les laisser derrière et qu'on puisse prendre le « va », le point d'exclamation et qu'on puisse courir dans notre destinée. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des gens qui voudraient te garder dans le trou alors que tu t'es repenti, tu es venu à la croix. Tu as dit, Jésus, là, j'ai raté le coche, je te demande pardon. Le sang de Jésus vous a purifié, mais il y a des gens qui voudraient vous garder dans le pressoir à vin. Ce matin, tu prends la décision soit d'écouter la voix de Jésus qui te dit, tu es pardonné, ou d'écouter la voix des autres qui te dit, reste dans le trou. Tu prends la décision maintenant de dire, c'est la voix de Jésus qui compte. Je sais que j'ai dépassé mon heure, je parlerai à nouveau ce soir ici, mais j'aimerais vous inviter à quitter votre pressoir à vin. Et si Dieu a parlé à ton cœur ce matin et tu veux saisir sa main, tu veux détruire ces poteaux sacrés qui t'empêchent d'avancer dans ton appel, j'aimerais simplement t'inviter, qui que tu sois, tout simplement, sans musique, sans fanfare, sans rien, que toi et Jésus, mais de te démarquer. Se démarquer, c'est très difficile, mais ça compte. Ça a beaucoup de valeur, ça permet d'ouvrir les brèches. Alors si c'est ta prière de sortir du trou, ou de détruire un poteau, un autel, et de rentrer dans la moisson pour de bon, ben, j'aimerais simplement t'inviter à te lever à ta place. Qui que tu sois, tu te lèves. Voilà, tu te lèves. Tu te lèves, tu te démarques. Tu ne te lèves pas parce que les autres se lèvent, tu te lèves parce que tu veux quitter ce pressoir à vin. Et on va le nommer le pressoir à vin tout à l'heure. On va le nommer, ça veut dire que le diable, toutes les autorités spirituelles entendent que ce pressoir à vin, c'est plus ton adresse, c'est plus ta destinée, c'est plus ton identité. Merci Jésus. Et ceux qui sont assis, bien priez pour ceux qui vont vous rejoindre dans la moisson, ceux qui vont vous rejoindre et courir avec vous. Merci Jésus. Alors voici la prière, dis-le à haute voix, on est nombreux, mais dis-le à haute voix, parce qu'il y a une force dans la confession. Dis, Seigneur Jésus, je prends la décision ce matin de quitter le pressoir à vin. Je saisis ta main, Jésus, ta main percée pour moi. Je dis non au passé. Je détruis le poteau sacré et je rentre dans ma destinée. Ce pressoir à vin, et vous le nommez, vous le confessez maintenant. Et pour terminer, tu dis, ce pressoir à vin n'est plus ma maison. Ma maison, c'est la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dites à votre voisin, à votre voisine, ne retourne plus jamais dans le pressoir à vin. Dites-lui.